Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Je prie que tous les cœurs soient ouverts pour recevoir de toi, Seigneur, afin d'être enseignés, alléluia, afin d'être fortifiés, encouragés, équipés dans ces temps dans lesquels nous vivons, Seigneur. Plus que jamais, ta parole est une arme puissante, elle est une armure, elle est une épée, Seigneur, elle nous garde, elle nous fait nous tenir fermes et debout et forts, parce que ta parole nous révèle ta volonté, qui tu es, Seigneur, et plus nous connaissons de toi, plus nous sommes forts. Merci d'ouvrir les cœurs ce matin, Seigneur, et merci de conduire cet enseignement qui nous enrichisse tous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de ce qui fait que l'Évangile est simple et les fondations même du christianisme se présente en deux parties, on peut dire en deux mots. Les fondations même du christianisme sont représentées en deux mots, avec deux mots. Ces deux mots, c'est foi et amour. Foi et amour. Et je vais vous montrer que ces deux mots sont très puissants et qu'ils marchent ensemble. On ne peut pas les séparer. C'est comme vos deux jambes. Vous ne pouvez pas marcher sans vos deux jambes. Eh bien, la foi et l'amour, ça marche ensemble. Et si on veut grandir dans la foi, il faut grandir dans l'amour. On ne peut pas grandir dans la foi si on ne grandit pas dans l'amour. Et l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous allons voir ce que c'est que la foi et ce que c'est que l'amour dans un passage, dans une parole que Jésus a dite. Et j'aimerais que vous preniez votre Bible dans Matthieu ce matin. C'est important de revenir aux fondations du christianisme. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas vraiment ce que Dieu attend d'eux. Ils ne comprennent pas qu'il y a la foi et l'amour et que ça marche ensemble et que c'est deux choses différentes qu'il nous faut développer et qu'on grandit, on doit grandir spirituellement dans ces deux choses, la foi et l'amour. Et Jésus a parlé puissamment dans Matthieu. Matthieu 22. Vous pouvez le prendre. Matthieu 22. Alors, c'est les pharisiens, vous voyez, qui veulent éprouver Jésus, n'est-ce pas, et qui lui dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus, au verset 38, va répondre le premier commandement, c'est celui-ci. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que ces deux commandements? Premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est la foi. C'est la foi qui est décrite là. Comment est-ce que vous pouvez aimer Dieu sans la foi? Vous ne le connaissez pas, vous ne le voyez pas, il est invisible. Donc il vous faut la foi. La foi est le véhicule pour aimer Dieu. Dans ce verset, vous avez les deux jambes de la vie chrétienne. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et ça, c'est votre foi. Aimer Dieu, ça demande de la foi. Parce que Dieu, vous ne le voyez pas. Vous ne le connaissez pas dans le naturel. Alléluia. Vous le connaissez à travers la parole. Mais Dieu, il est invisible. Alors, il vous faut la foi. Tout ce qui est invisible, tout ce que vous ne voyez pas, vous le recevez. Et vous pouvez le recevoir par la foi. Le monde a été créé à partir de l'invisible. Dieu est invisible. Donc, si je crois en Dieu, alors je marche dans la foi. Alléluia. Et je crois en Dieu. Donc, je marche dans la foi. Et j'aime mon Dieu. Donc, c'est de la foi. Aimer Dieu, c'est par la foi. Donc, vous avez de la foi si vous aimez Dieu. Et cette foi doit se développer dans tous les domaines de votre vie. Et la correspondante, si vous aimez Dieu, deuxièmement, ça ne peut pas être séparé. Jésus l'a dit, ce sont deux commandements qui sont égaux, absolument égaux. On ne peut pas les séparer, on ne peut pas en développer un sans l'autre. On n'est pas boiteux, on doit marcher sur nos deux jambes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et ça, c'est la foi en action. La foi ne peut pas marcher sans l'amour. Et je vous dis, frères et sœurs, si vous voulez être un chrétien authentique, vous devez développer ces deux jambes de votre foi, la foi et l'amour. l'amour de votre prochain. Nous avons vu hier et nous avons parlé de l'importance de la communion et de communiquer avec les autres, l'importance de vivre en communauté, l'importance d'avoir des relations humaines riches, agréables, développées, l'importance de la relation dans le couple, l'importance de vraiment s'aimer, de savoir s'aimer, de prendre les lois de Dieu et de les mettre en pratique, car les lois de Dieu ne sont pas religieuses, elles sont pratiques, elles sont faites pour que les hommes en bénéficient, car Dieu est bon. Alléluia, il a déclaré cette loi d'or. Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes, ça veut dire donne quelque chose, apporte ton amour. Eh bien, voyez, dans ce commandement, Dieu rappelle que pour aimer Dieu, il vous faut de la foi. Et si vous aimez Dieu, vous êtes déjà dans la foi. Mais le deuxième commandement, et c'est un ordre de Dieu qui nous est complémentaire, qu'on ne peut pas mettre de côté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Beaucoup de gens n'ont même pas commencé à s'aimer eux-mêmes. Et ils se déprécient, ils s'accusent, ils descendent à des niveaux inférieurs parce qu'ils ne réalisent pas qui ils sont. Il faut changer. Il faut apprendre à s'aimer. Ça veut dire, vous savez, vous ne pouvez pas être fils et filles du Dieu vivant si vous n'avez pas d'estime pour vous-même. Parce que Dieu, il en a pour vous. Dieu en a pour moi, Dieu en a pour vous. Dieu vous aime maintenant. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme des pécheurs ou à vivre comme des gens qui n'ont aucune dignité. Nous sommes fils et filles du Dieu vivant. L'amour de Dieu est sur nous et Dieu nous appelle à régner. Nous sommes pas n'importe qui sur cette terre. L'Église est puissante sur cette terre. Vous êtes puissants, vous êtes la semence de Dieu sur cette terre. Donc voyez que ces deux jambes de la foi chrétienne, de la vie chrétienne, c'est la foi et l'amour. On ne peut pas vivre sans développer l'autre. Lorsque vous n'êtes pas dans l'amour, lorsque vous marchez dans la haine ou dans l'amertume ou dans toutes sortes de mauvais sentiments, la foi est arrêtée. Elle ne se développera jamais. Elle ne marchera pas parce que Dieu nous a appelés à marcher dans l'amour. Et quand cet amour n'est pas développé, eh bien la foi non plus n'est pas développée. Or, Dieu nous a appelés à être excellents dans la foi et dans l'amour, à nous dépasser, à grandir dans ces choses. Et il y a croissance spirituelle et donc bonheur et joie lorsque nous grandissons dans l'amour. Alléluia. Et lorsque nous grandissons dans la foi. Alléluia. Donc nous sommes appelés à grandir. Et je voudrais, avant de continuer, vous montrer beaucoup de passages dans l'Écriture qui nous parlent de la foi et de l'amour. Alors vous allez simplement prendre les références et vous allez répétez après moi tout simplement ces mots. Hein. Alors il y a un premier verset, dans 1 Corinthiens 13:13. Hein. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Alléluia, on ne les sépare pas. 2 Corinthiens 8, verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle et dans votre amour pour tous. Ah, on peut pas les séparer. Si vous voulez exceller, et je veux être excellente pour mon Dieu, eh bien je dois exceller dans ces choses, en foi, en amour, pour tous. Alléluia, en amour pour vos frères et sœurs, en amour dans votre vie personnelle. Je dois exceller, ça veut dire je dois chercher un haut niveau d'excellence, de relation. Je dois m'améliorer, je dois être la meilleure possible, alléluia, afin d'exceller dans la foi et dans l'amour. Éphésiens 3, 17 et nous dit que en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. La foi est enracinée et fondée dans l'amour. Alléluia. La foi ne peut pas être activée si l'amour dans votre vie n'est pas activé. Si vous êtes en division, en relation avec des gens que vous n'aimez pas, si vous avez des problèmes avec les autres et que vous êtes dans des sentiments de négatifs, votre foi est arrêtée. Elle ne marchera pas. Car la foi et l'amour, ce sont les deux jambes du christianisme. Alléluia. Et quand vous grandissez, la foi et l'amour grandissent aussi dans votre vie. La croissance, c'est la foi et l'amour. Vous savez, le christianisme, il ne faut pas le compliquer. Nous aimons connaître Dieu et ses principes, et il y en a beaucoup, c'est vrai. Mais la base du christianisme, c'est la foi et l'amour. Et je vais vous le démontrer. Parce que la foi, c'est croire en Dieu que vous ne voyez pas, mais c'est aimer votre prochain que vous voyez. Et vous savez que l'apôtre Jean a dit, mais comment est-ce que vous pouvez dire que vous aimez Dieu si vous n'aimez pas votre frère? Et en tant que frère, nous parlons de l'Église, mais nous parlons aussi dans notre vie personnelle, notre mari, notre femme, nos enfants, nos voisins, nos amis, tout ça c'est notre prochain. Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu et ne pas... Il y a des gens qui ont beaucoup d'amertume dans leur cœur. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes dans leur cœur avec les autres. Et donc ça, je me demande si Dieu règne dans leur vie. Il faut laisser Dieu régner dans nos vies. Vous voyez, quand on est chrétien, on prend l'esprit de Dieu qui est un esprit d'humilité. Ça veut dire un esprit qui est simple, qui fait que on accepte les autres tels qu'ils sont, on ne complique pas les choses. Vous savez, les Européens sont très compliqués. Hein, ça cogite dans leur tête constamment. Et vous savez, la foi est tellement simple. Marcher dans la foi, c'est croire Dieu. Alléluia. C'est l'aimer. Et parce que je l'aime, je suis dans la foi. Vous pouvez pas être dans la foi et aimer Dieu. Les gens qui n'ont pas de foi ne peuvent pas aimer Dieu. Ils peuvent dire, ah ben Dieu existe. Mais l'aimer, ça c'est la foi. Je l'aime, vous l'aimez. Alors qu'est-ce que fait ? Je suis dans la foi, vous êtes dans la foi. Et donc, la conséquence, c'est que vous aimez votre prochain. Vous avez de l'amour dans votre cœur suffisamment pour aimer votre prochain. C'est pourquoi la foi et l'amour, ce sont les deux jambes du christianisme. Et ça, c'est puissant. J'aimerais que vous le gardiez dans vos cœurs. J'aimerais que cela s'enracine dans vos cœurs, afin que ça change les relations que vous avez avec les autres. Et je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait de problème de division dans l'Église. Je suis sûre qu'il n'y en a pas. Mais il peut qu'il y en ait dans vos familles. Il peut que vous soyez avec des problèmes avec les autres. Je ne sais pas, moi, votre vie. Mais il faut arrêter les problèmes. Et il faut libérer l'amour dans votre cœur. Et Dieu vous donnera les solutions. Si les gens ont des problèmes avec vous, c'est pas votre problème. Il se peut que les gens soient en colère après vous, vous en veuillent, mais c'est pas votre problème. Vous, l'important, c'est que vous soyez en paix avec tout le monde. Tandis que vous marchez avec le Seigneur, Dieu va vous conduire pour être en paix avec tout le monde. Alléluia. Parce que la foi et l'amour, c'est puissant. Dieu nous appelle à exceller dans ces choses, à être puissant dans la foi, à être puissant dans l'amour, de façon à avoir de grandes victoires. Alléluia. Parce que voyez, Dieu veut que son Église ne soit pas des bébés. Il veut pas qu'on reste des bébés, il veut qu'on grandisse. Il y a des gens qui restent des bébés pendant des années et des années. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas compris le sens de la foi et de l'amour. La foi, c'est aimer Dieu en premier. J'aime Dieu avant tout. Personne. Je ne vais pas dire j'aime mon mari, Dieu merci. Mais j'aime Dieu avant toute chose. Dans mon cœur, c'est Dieu qui a gagné. Et quand vous aimez Dieu, vous aimez votre famille, vous aimez votre mari, vous aimez vos enfants, vous aimez bien. Mais si vous aimez par exemple votre mari en premier, j'ai connu un couple, et malheureusement ça s'est très mal terminé. La jeune femme était chrétienne. Elle aimait Dieu de tout son cœur. Et à un moment donné, son mari a déraillé, on peut dire, sur le plan de la foi. Hein, il a rejeté la foi, etc. Il voulait plus entendre parler. Et elle me disait, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je lui dis, reste avec Dieu. Continue de marcher avec Dieu, parce que Dieu va toucher ton mari. Elle dit, mais je peux pas, je peux pas. Et elle a lâché Dieu, elle est allée avec son mari. Elle a suivi son mari, tout en ayant dans son cœur l'amour de Dieu, dans son cœur, mais elle ne pouvait plus suivre Dieu. Et elle a suivi son mari. Et les choses se sont très mal passées pour elle. Aujourd'hui, elle n'est plus de ce monde. Parce que vous voyez, quand on place quelqu'un d'autre sur le trône de notre cœur, eh bien, on ne peut pas aider la personne qui a des problèmes. Dieu veut qu'on l'aime en premier. Vous voyez ? Pourquoi ? C'est pour notre bien. Aime Dieu, c'est ta foi. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le même commandement. Il lui est égal. C'est les deux jambes du christianisme. Amen. Est-ce qu'on peut regarder d'autres versets avant d'aller plus loin ? Éphésiens 3, 17, en sorte que Dieu habite dans vos cœurs. Dieu habite dans vos cœurs par la foi. Alléluia. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Alors, la suite, vous la lirez chez vous parce que j'ai noté ces versets. Alléluia. Et je vais vous en donner d'autres. Colossiens 1, 4. Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Vous voyez, l'amour que nous avons pour l'Église, c'est un amour surnaturel. Nous aimons l'Église, nous aimons les chrétiens. Qu'ils soient faibles, qu'ils soient forts, qu'ils aient des problèmes, qu'ils soient dans le péché, pas dans le péché, on les aime. On les aime. Parce que ce sont nos frères. On est liés par l'Esprit de Dieu, par le lien du sang. Alléluia. Et donc, c'est un signe que vous êtes dans la foi quand vous aimez vos frères et sœurs, quand vous aimez les gens. Alléluia. Et Dieu veut nous rendre beaucoup plus grands encore en ce qui concerne l'amour pour les autres. Il veut que nous développions cet amour afin que le monde vienne à Christ. Alléluia. Alors, vous avez lu 1 Colossiens 4, ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les siens. Colossiens 2, verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre. Le bon ordre, c'est l'amour qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Alléluia. 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La foi marche avec l'amour. L'amour et la foi, c'est les deux jambes du christianisme. Et le christianisme ne peut pas être compliqué. Il est simple. Tout le monde peut entrer dans ces choses parce que Dieu nous le rappelle, parce que l'Écriture nous le rappelle. La foi et l'amour marchent ensemble. 1 Thessaloniciens 3, 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez nous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Oh, chers amis, partout dans l'écriture du Nouveau Testament, vous avez la foi et l'amour associés. L'amour du prochain, l'amour pour vos frères et sœurs, l'amour pour les gens, l'amour pour vos familles. L'amour doit se développer en même temps que votre foi doit se développer. C'est ainsi que vous devenez excellent. C'est ainsi que l'Église grandit. C'est ainsi que l'Église accomplit sa mission. Parce qu'elle a ses deux jambes, elle est debout sur ses deux jambes, pleine de foi et d'amour. La foi, c'est croire dans l'invisible, dans le Dieu qui m'aime et que j'aime. C'est invisible, il faut de la foi. L'amour, c'est concret. L'amour, c'est concret, c'est pas spirituel, c'est naturel. Si vous n'avez de la haine contre quelqu'un, si vous avez mal parlé, si vous rejetez des personnes, vous marchez pas dans l'amour. L'amour, c'est bénir. L'amour, c'est, on peut reprendre, mais tout avec amour. Alléluia. Il faut abandonner la colère, abandonnons l'amertume, abandonnons les mauvaises pensées, pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu nous a équipés pour vivre une vie chrétienne victorieuse et marchons dans l'amour. L'amour, la foi et l'amour sont les deux jambes du christianisme. Est-ce qu'on peut continuer de lire certains versets? Ben, je vous donne les références, prenez-les, vous les lirez chez vous. Hein? Donc, Timothée part, il est envoyé par l'apôtre Paul, il revient et les informations que Paul désire sont les informations importantes. Comment vont leur foi et leur amour? Comment ça marche? Et Timothée, eh bien, leur dit de bonnes nouvelles. Il dit de bonnes nouvelles à l'apôtre Paul, il leur dit, voilà, leur foi et leur amour sont excellents. Ils avancent. Hein? Regardez 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Ce verset est un verset clé pour nous. Parce que la foi fait de grands progrès quand l'amour pour le prochain augmente de plus en plus. Ça marche ensemble. Frères et sœurs, changez vos lunettes. Si vous pensiez que la foi, ça suffisait, non. Dieu veut voir l'amour en action dans votre vie. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça et qui ont des attitudes, des gestes, des paroles qui sont des paroles blessantes, qui sont des paroles qui manquent d'amour ou des attitudes qui fait que ça bloque leur foi. Et Dieu ne peut plus avancer avec eux parce qu'ils ne marchent pas dans l'amour. Il nous faut nous reprendre. Alléluia. Et demander pardon à Dieu pour toutes les fois où nous avons échoué. Alléluia. Et avancer dans l'amour. Parce que Dieu veut que nous soyons excellents dans l'amour. Regardez ce verset. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que votre foi fait de grands progrès. Alléluia. Et que votre amour pour chacun. Alléluia. À l'égard de tous, cet amour-là augmente. De plus en plus. C'est un signe de bonne santé. Alléluia. Je crois que l'Église est en bonne santé quand elle marche dans l'amour et elle marche dans la foi. Il n'y a pas de division dans les Églises lorsque les gens comprennent que les deux jambes du christianisme, c'est la foi et l'amour. Nous allons vous en parler de la foi tout à l'heure. Je vais vous en parler, pardon. Mais je veux vous montrer combien la foi est importante dans notre vie. Si l'amour fonctionne aussi dans notre vie pratique, concrète, dans ma vie, je n'ai pas d'ennemis. Alléluia. Peut-être il y a des gens qui dont je suis l'ennemi, mais moi je n'ai pas d'ennemi. Et je pourrais dire, vous allez dire c'est prétentieux, mais je peux aimer tout le monde avec l'amour de Dieu dans mon cœur. Même si on me blesse, même si on me dit des choses négatives, je pardonne tout de suite, mon cœur reste lisse. Je n'ai pas d'amertume contre personne. Je peux aimer. Amen. Et vous pouvez aussi. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Et l'amour, c'est simplement pouvoir prier pour les gens, pouvoir leur donner une bonne parole, être sensible à leurs besoins, souffrir avec ceux qui souffrent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'on est pendu au cou l'un de l'autre du matin au soir. C'est pas obligatoire. Dans cette vie moderne, on se voit pas beaucoup. Et on se voit à l'église, des fois on se voit un petit peu les uns chez les autres, mais très peu. Pourquoi ? Parce que tout le monde est tellement occupé, tout le monde est à ses activités, cela est normal. Mais on sait qu'on s'aime. Hein ? Parce que quand il y en a un qui a quelque chose, je vais vous dire, faut voir les réactions de l'église, combien les gens prient, combien les gens sont concernés, combien les gens prennent leur téléphone et demandent des nouvelles et répondent. Il faut libérer l'amour. Et l'amour, c'est une expression naturelle. C'est quelque chose de concret. C'est pas uniquement spirituel. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et la foi en Dieu. Et puis, on voit pas le prochain à côté. On voit pas celui qui a un besoin. On voit pas la détresse des autres. On ne voit rien. Pourquoi ? Parce que on oublie cette jambe du christianisme qui est l'amour. Et l'amour, c'est pratique, c'est concret. Amen ? Vous êtes d'accord avec moi ? Alléluia, la foi et l'amour, puissant. Encore quelques versets avant d'aller plus loin. Alors, je vous ai dit 1 Thessaloniciens. Maintenant, 1 Thessaloniciens 5, verset 8. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, une église qu'il a créée lui-même et qui marche avec lui, il leur dit, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant... » le casque de l'espérance et du salut. Vous voyez, c'est une cuirasse, la foi et l'amour. Vous pouvez pas enlever l'amour. Si vous dites que la cuirasse de la foi, ça suffit, non, moi je vous dis non. La cuirasse de la foi et de l'amour. Et l'amour, ça commence par le respect de vous-même, parce que vous êtes créé à l'image de Dieu. Maintenant, l'amour de Dieu et les regards de Dieu sont sur vous. Vous ne pouvez plus vous prendre pour ce que vous étiez avant. Vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez avant. La nature du péché n'est plus en vous. Vous êtes une créature de Dieu. Dieu vous a réconcilié à travers le sang de Jésus. Vous êtes aimé et Dieu a les yeux sur vous. Alléluia. Il veut que vous remplissiez votre mission. Chaque chrétien est appelé à accomplir sa course. Il n'y a pas que l'apôtre Paul. Chaque chrétien a une course à accomplir. C'est pourquoi vous devez vous regarder avec respect. Le passé est effacé. Vous savez, il y a des personnes qui continuent de se culpabiliser, de se blesser, de s'accuser à cause du passé. C'est terminé. Vous pensez qu'un homme comme l'apôtre Paul, qui a amené des saints, des chrétiens authentiques en prison, qui les a fait tuer, qui était un homme violent, il le dit lui-même, eh bien, il a pu se relever, se pardonner à lui-même et être un puissant ministre de Dieu parce qu'il a su se voir avec les yeux de Dieu. Il n'a pas regardé en arrière à ce qu'il était. Peut-être certains d'entre vous n'avez pas fait de mauvaises choses dans votre vie. Vous venez à Jésus, vous avez quand même besoin du pardon, d'être lavé. Certains d'entre vous, vous avez peut-être fait des choses difficiles, dures, que vous réprouvez maintenant. Mais arrêtez de vous blesser ou de vous accuser. Relevez-vous, alléluia, et déclarez que vous êtes une merveilleuse personne en Christ. Car le péché a été lavé, il est effacé, alléluia. Et le sang de Jésus, vous êtes une nouvelle création. Les yeux de Dieu sont sur vous, vous appartenez à Dieu. Alors vous vous aimez, quand vous vous aimez, je vais vous dire, eh bien vous aimez les autres aussi. Moi j'ai de la compassion pour les gens parce que j'ai dû me convertir. J'ai dû venir à Christ, j'étais incroyante, j'étais athée, j'étais contre Dieu. Je ne pouvais pas supporter qu'on me parle de Dieu, mais quelqu'un est venu me parler de Jésus et cette parole a changé ma vie et mon cœur en une seconde. Eh bien à partir de ce moment-là, j'ai eu de l'estime pour moi-même, j'ai changé, Dieu m'a pardonné. Et ensuite, j'aime les autres parce que je sais qu'ils sont comme moi. Ils ont besoin du pardon de Dieu. Nous avons tous besoin et nous avons tous eu besoin du pardon de Dieu. Mais maintenant, nous sommes des fils et des filles. Attention, nous avons la tête qui se lève, non pas par orgueil, mais par respect pour Dieu. Nous ne nous traitons pas comme rien. Nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Aussi, nous sommes capables d'aimer comme Jésus a aimé. Est-ce que Jésus avait quelques préférences ? Oui. Hein? L'apôtre Jean était sur son sein, là, sur sa poitrine, et lui parlait cœur à cœur, il l'aimait. Bon, mais ça faisait rien. Hein? Mais Jésus aimait quand même tous les autres. Il aimait ses disciples, il aimait les gens qu'il rencontrait, il répondait aux besoins des gens. C'est l'amour manifesté. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas l'amour. Et votre foi ne se développera pas si vous ne marchez pas dans l'amour. Soyez en paix les uns avec les autres, mais surtout, soyez en paix dans vos familles. Apprenez à aimer. Et aimer, c'est donner. Alléluia. Rappelez-vous de la loi d'or. Moi, c'est une loi, ce verset de Matthieu, je crois que c'est 7. Hein, ce verset a été un verset qui a motivé toute ma vie. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi. Moi, je veux être aimé des autres, je veux être apprécié, je veux être respecté, hein. Je veux ne pas être seul ni rejeté. C'est normal, chaque être humain désire être apprécié, être aimé. C'est un amour, c'est un désir légitime que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain. Donc, si je veux être aimé, bien, je dois traiter les autres comme je voudrais être traité. Ah, ça vous change, hein. Ça vous change quand vous apprenez à aimer les autres, à avoir la bonne attitude, parce que quand vous traitez mal les autres, dites-vous, est-ce que vous aimeriez être traité comme cela? Et quelquefois, on dit, non, je voudrais pas qu'on me traite comme ça. Alors, arrêtez, traitez les autres comme vous voudriez qu'on les traite. Et je vais vous dire, c'est une loi d'or. Le Seigneur a dit, c'est une loi d'or. Ça veut dire, c'est des lois qui marchent pour tout le monde. C'est des lois puissantes, c'est ce avec quoi Dieu a créé l'univers. Ça fait partie de sa création, ce sont des lois d'or. Encore quelques versets sur la foi et l'amour. Donc, 2 Thessaloniciens 3, 1 Timothée, je crois que c'est Timothée 1, verset 5. Oui, c'est 1 Timothée. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. L'amour et la foi, c'est partout. 1 Timothée 2, 1,14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. 2 Timothée 1, 13. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. 2 Timothée 3, 10, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constante. Vous savez, il y a traduit charité, mais charité n'est pas juste. C'est pas le sens, ça veut dire amour, c'est amour. Je termine avec Philémon 1, 5. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Alléluia. Ça, c'est Philadelphia. Ça, c'est l'église de Philadelphia. C'est l'amour, l'église de l'amour fraternel. C'est l'église que le Seigneur va enlever. C'est l'amour Philadelphia qui existe dans l'église. Alors, développez votre amour, développez votre foi. Maintenant, nous allons regarder quelque chose. Nous allons voir, alléluia, l'importance de la foi maintenant dans notre vie, parce que la foi doit grandir dans nos vies. Et pour cela, nous allons prendre Hébreux 11, et je veux vous donner trois points, trois pas pour votre foi, trois clés qui sont puissantes pour commencer à marcher dans la foi. Hébreux 11. Alléluia. Donc, nous n'oublions pas que la foi et l'amour marchent ensemble. Alléluia. Soyez en paix les uns avec les autres. Alléluia. Alors, Hébreux 11. Notre foi doit progresser de même que notre amour. Vous savez, quand les gens rétrogradent, on appelle ça, reviennent en arrière, qu'est-ce qui se passe? L'amour s'étiole dans leur vie. L'amour pour les frères et sœurs et leur foi en Dieu, tout cela, ça diminue. Et ils vont en arrière. Ça s'appelle rétrograder. Mais on n'est pas appelé à rétrograder. On est appelé à exceller. On est appelé à avancer. On est appelé à grandir. Vous êtes d'accord? Alléluia. Alors nous allons voir quelques points là importants pour notre foi. Et nous allons voir ce qu'est notre foi. Regardez Hébreux 11. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Premièrement, nous allons voir ce qu'est la foi. Parce que nous avons la définition du premier pas de la foi dans le verset 2, le verset 3, pardon. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Premier pas de foi, très très important, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le premier pas de la foi, c'est reconnaître que Dieu est le Créateur. Vous dites, oh, c'est évident, mais non, c'est pas évident. Il y a beaucoup de monde sur cette planète qui ne croit pas que Dieu est le Créateur. Il y a beaucoup de monde sur cette terre, en France et dans cette ville, qui ne croit pas que Dieu est le Créateur. Il y a beaucoup de gens intelligents, des scientifiques, des gens extraordinaires, qui ne croient pas que Dieu est le Créateur. La première pas que vous devez établir dans votre vie, Dieu est le Créateur de toutes choses. C'est par la foi que je reconnais que Dieu est le Créateur. Je le déclare, frères et sœurs, et vous devez le déclarer contre toutes les confusions et les mensonges de l'ennemi. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu est le Créateur de la vie. Dieu est le Créateur d'Adam et Ève. Il n'a pas créé des singes pour qu'on devienne des hommes. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il n'a pas échoué dans sa création. C'est par la foi que je reconnais, alléluia, que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que je vois a été fait par des choses qui ne sont pas visibles. C'est la clé de la foi. Un petit exemple pour rester dans le concret. Tout le monde attend Noël. On sait que Noël va venir. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On commence peut-être à faire une petite liste sur les cadeaux. Certains, vous êtes déjà en train d'acheter le cadeau. Peut-être certains, vous avez déjà acheté la dinde et vous la mettez au congélateur. C'est de la foi. Vous savez que Noël va venir. Mais Noël, c'est pas encore là. C'est abstrait encore. C'est invisible, Noël. Hein? On n'est pas le 25 décembre. Mais pourtant, vous le savez. Je sais pas si cet exemple vous parle. Eh ben, la foi, c'est la même chose. La foi dans le Dieu créateur, c'est le premier point. Je sais que Dieu a créé le ciel et la terre. Je sais que Dieu utilise des choses invisibles. Le monde de Dieu est invisible à mes yeux pour créer les choses visibles. Le monde invisible, c'est le monde de Dieu. La Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu. Si on le voit, on risque de mourir. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Alléluia. À travers Jésus, nous pouvons aller vers Dieu. Mais Dieu, c'est le Dieu créateur de l'univers. Et en Dieu, il n'y a pas de temps. Et Dieu est Dieu. Il est infini. Il n'est pas créé. On ne peut pas le comprendre. Mais je crois par la foi qu'il a créé le ciel et la terre. Allez, qu'il a créé l'univers, qu'il m'a créé à son image, que chaque créature humaine, chaque chose qui vit sur la terre a été faite par des choses invisibles. C'est le premier pas de la foi. Cela souhaite s'établir dans votre vie. Et frères et sœurs, si vous avez de la foi dans le Dieu créateur, qui est le premier pas de la foi, vous devez arrêter de douter. Vous ne devez plus avoir de doute en ce qui concerne votre Dieu. Vous devez être fort dans la foi. Vous devez arrêter d'écouter les philosophies humanistes qui pensent qu'on vient du hasard. Vous devez dire non à ces choses parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Et vous, en tant que chrétien, moi, en tant que chrétien, j'ai la foi. Et ma foi commence, le premier pas de la foi commence dans l'établissement du fait que Dieu est créateur de la terre et du ciel, qu'il est le Tout-Puissant, alléluia, et que il a créé l'humanité, que le plan de l'humanité est inscrit dans ma Bible, je le crois, car Dieu est Dieu. Il y a un passage dans l'Écriture, vous le trouvez dans Romains, je vais vous le lire, Romains chapitre 1. L'apôtre Paul déclare quelque chose d'important dans le chapitre 1, au verset... Attendez, j'arrive. Romains 1. Alors, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive. Car ce que l'on peut connaître de Dieu, voyez, ce que l'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je lève les yeux, que je vois la lumière, quand je vois le soleil, quand je vois le ciel, les arbres, la vie, quand je vois la nature qui s'endort et se réveille, quand je vois les hommes faits à l'image de Dieu, quand je vois mon corps, qui fonctionne tellement bien, et qui peut, un petit grain de sable peut le déstabiliser aussi. Quand je vois que mon corps peut se guérir lui-même, quand je vois comment Dieu a tout mis, étouffé à la perfection, comment ne pas croire qu'il y a un Dieu créateur? Comment croire que c'est un hasard? Comment croire que c'est des choses qui sont faites sans l'intervention de Dieu? Quel orgueil! Ça vient de Satan qui est un menteur. Le premier pas, frères et sœurs, de chaque chrétien, c'est de croire que Dieu existe, qu'il est le créateur de toutes choses. Alléluia, c'est votre premier pas. Alléluia, vous voyez? Et ça, Dieu le dit, ils sont donc inexcusables, les gens qui ne veulent pas croire. Parce que Dieu se révèle. Sur cette terre, Dieu a fait en sorte que nous voyons à travers la création qu'il y a un Dieu qui est créateur et qui veut le bien de sa création. Amen. Même si cette création s'est dénaturée à cause du péché. Alors le premier point, je le répète, je dois croire, alléluia, que Dieu est le créateur. Je dois reconnaître qu'il a formé la terre avec sa parole, de sorte qu'il a utilisé ce qui est invisible à mes yeux pour que je voie tout ce qui est visible. Tout ce qui est visible à mes yeux a été créé à partir de l'invisible. C'est la foi. Et votre foi en Dieu doit être établie sur ce principe. Je le dis pourquoi? Nous sommes dans un monde où vous êtes sujet à toutes sortes d'informations comme moi-même. J'écoute les philosophies des uns et des autres, des sages parlent, des scientifiques, ils vous parlent de bonnes choses, puis d'un seul coup ils déraillent. Hein? Ils vont contre la création, ils vont contre Dieu parce qu'ils n'ont pas cette révélation. Vous devez être ferme dans votre foi. Le premier pas de la foi des chrétiens, c'est croire que Dieu a créé toutes choses, alléluia, et qu'il est le créateur, qu'il a utilisé les choses invisibles, afin que tout ce qui est visible sur cette terre, nous puissions voir les choses visibles, mais tout a été fait à partir de l'invisible. C'est la foi. Dieu est un Dieu de foi. Est-ce que ça va? C'est le premier pas, alléluia. Et donc nous devons le comprendre cela. Vous voyez, ça veut dire il faut l'enseigner, il faut que les chrétiens sachent cela. Un chrétien qui ne croit pas dans la création de Dieu, que Dieu est le créateur, ça ne peut pas être un chrétien. On ne peut pas être chrétien et ne pas croire que Dieu est le créateur. Ça va ensemble. Quand vous lisez votre Bible, vous savez qu'il a créé toutes choses. Donc, il faut que ce soit bien établi dans votre vie. Alléluia. C'est le premier pas de la foi. Dieu a créé tout ce que je vois à partir de ce que je ne vois pas. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi votre foi est créatrice. Quand vous la libérez, elle va créer, alléluia, ce que vous ne voyez pas encore à partir de ce que, à partir de l'invisible, à partir de votre foi. Comme je vous l'ai dit, aimer Dieu, c'est le domaine de votre foi. Aimer le prochain, c'est le domaine de votre action personnelle, de ce qui est réel, de votre réalité. Mais ça marche ensemble, alléluia. Donc tout ce que Dieu a créé, Romains 1 nous le dit, eh bien, tout ce que Dieu a créé se voit à l'œil, c'est visible, alléluia. Et donc, les gens n'ont pas d'excuses pour ne pas reconnaître qu'il y a Dieu là et que c'est le Dieu de la vie. Deuxième pas que nous pouvons voir, c'est très important. Le premier pas, croire que Dieu est le Dieu de la création, c'est le Dieu créateur. Deuxièmement, regardez le verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Deuxième pas, frères et sœurs, très important pour chacun de nous, alléluia, c'est la foi dans le sang de Jésus. C'est la foi dans le sacrifice parfait de Jésus. Cette foi dont nous parle l'apôtre là, eh bien, Abel l'avait. Abel savait que c'est au travers du sang que l'on est protégé et gardé du péché. Abel savait ce qui plaisait à Dieu. Abel avait été, et Caïn de même, enseignés par leurs parents, Adam et Ève. Ils avaient été enseignés parce que Adam et Ève leur avaient dit, vous voyez, quand on a péché, Dieu nous a chassés du jardin d'Éden, mais pour que nous ne soyons pas détruits, il a tué lui-même un animal et il nous a couverts de son sang. Il nous a couverts d'un vêtement. Et pour cela, il a répandu du sang pour mettre ce sceau sur nous. Donc le sang, avec le sang vient la protection du péché. Avec le sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc avec le sang, nous avons été pardonnés. Nous avons continué à avoir de la communion avec Dieu. Abel le savait, Caïn le savait. Mais le cœur d'Abel a offert à Dieu ce qui lui plaisait. Parce qu'il aimait Dieu. Et vous avez l'image de celui qui aime et de celui qui est religieux. La religion n'a pas d'amour pour Dieu et n'apporte aucun sacrifice vivant pour Dieu, que des sacrifices morts. Mais la foi, alléluia, la foi en Dieu et honore le sacrifice parfait, le sacrifice de Jésus. Vous voyez, Abel a offert un sacrifice plus excellent et c'est le deuxième pas de la foi. Vous devez reconnaître que vous étiez pécheurs, séparés de Dieu, mais que le sacrifice de Christ nous a rapprochés de Christ et de Dieu. Pardon, le sacrifice de Christ nous a rapprochés de Dieu. Maintenant, nous sommes aimés. Dieu est notre Père, mais ce n'est pas à cause de mes mérites, ce n'est pas à cause de vos mérites, c'est à cause du sacrifice de Christ. Alléluia. Donc, c'est pourquoi le deuxième pas de la foi, c'est reconnaître qui vous êtes en Christ et ce que Christ a fait pour vous. C'est reconnaître que vous êtes au bénéfice du sang de Jésus. Ça, vous savez, ça fait partie de notre foi. Je crois que Dieu a créé le ciel et la terre et l'univers entier, qu'il est le Dieu créateur. Et je crois dans le sacrifice parfait de son Fils qui m'a donné la vie éternelle. Je crois de tout mon cœur. C'est votre foi. C'est le deuxième pas de la foi. Votre pas de foi doit être solide. Quand votre foi est établie sur ces trois pas dont je vais continuer de vous parler, vous êtes fort dans la foi. Vous reconnaissez le Dieu créateur, vous reconnaissez l'univers. Quand vous regardez les choses naturelles que vous voyez, vous rappelez qu'il y a eu création, amour, action de Dieu. Vous savez, je pourrais vous passer du temps à vous parler, mais j'ai peu de temps, sur ce qui s'est passé entre le verset 1 et le verset 2 de Genèse, mais on en parlera un jour. Mais c'est tellement puissant ce que Dieu a fait et ce qui s'est passé. Et ça nous parle de la lutte entre les forces du mal et la puissance de Dieu. Mais Jésus est venu pour détruire la puissance du mal qui est Satan. Et je vous rappelle que Satan est un menteur. Il voile cette réalité dans ce monde du 21e siècle. Pourquoi ? Parce que Jésus revient bientôt. Est-ce que vous avez déjà parlé avec les gens ? Les gens ne croient pas qu'il y a un créateur. Ils n'y croient pas. Ils sont arrêtés avec les bases scientifiques de tout cela. La science fait de la philosophie. La science n'a pas le droit de faire cela. La science est seulement là pour observer ce qu'elle découvre et dire voilà ce que nous avons découvert. Mais la science va plus loin, les scientifiques se mettent à faire de la fusion vivante. Voilà comment l'univers a été créé. Comment l'univers est venu à la vie plutôt. Ils ne parlent même pas de création. Ils disent comment l'univers a été suscité. Par un hasard, par des molécules qui sont mises ensemble, par quelque chose qui était dans l'univers qui traînait comme ça et paf, il y a eu une étincelle. Ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui a créé ce que nous voyons, notre monde. Amen. Donc les deux pieds, pour le moment, les trois piliers de notre foi, les deux pieds de christianisme, c'est la foi et l'amour. Mais les piliers de notre foi, c'est croire premièrement Dieu et le Créateur. Deuxièmement, le sacrifice de Christ est pour tous les hommes et sans effusion de sang, pas de pardon. À cause du sacrifice de Christ, je suis pardonné. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans ce verset, on nous parle d'Abel, qui a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Le sacrifice de Caïn, ce n'était pas un sacrifice qui a plu à Dieu. Il a pris des légumes, il a pris des fruits et il a offert à Dieu parce qu'il savait que Dieu voulait un sacrifice parfait. Mais il n'a pas respecté Dieu. Et Dieu lui a dit « Attention Caïn ! Il y a la jalousie, le péché qui vont frapper à ta porte. Tu commences par déshonorer Dieu, tu commences par mettre de côté la puissance du sacrifice. Tu vas aller encore plus loin, ton cœur va être habité par de la méchanceté, de la jalousie, et tu vas devenir un meurtrier. Attention Caïn, le péché habite à ta porte. Domine sur lui. Nous avons avec Christ la puissance de dominer sur le péché. Alléluia. Amen. Christ l'a vaincu pour nous, il ne peut plus dominer sur nos vies. Alors regardez, c'est le deuxième point. Vous devez reconnaître la puissance du sacrifice de Jésus pour votre vie. Vous devez reconnaître que vous étiez pécheur, mais grâce au sang parfait de Jésus, à sa mort parfaite, vous êtes maintenant devenus des enfants de Dieu, réconciliés avec Dieu. Amen. Ça, c'est les bases de la foi. Mais le troisième point nous est déclaré ici avec Enoch. Et c'est intéressant de comprendre que ça, c'est le fonctionnement de votre foi. Regardez. C'est par la foi qu'Abel, donc je l'ai lu tout à l'heure, bon, offrit un sacrifice plus excellent, d'accord ? On l'a vu. Maintenant, regardez le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, en sorte qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car ayant, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Alors je répète ce verset. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait eu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le troisième point de votre foi, le troisième pas, oui, merci, de votre foi, c'est quoi ? La communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Si vous avez de la foi, vous êtes en communion avec Dieu. Dieu cherche votre communion. Dieu vous cherche. Dieu cherche votre cœur. Dieu dit, vous êtes mes enfants maintenant. Je veux vous aimer. Je veux que vous m'aimiez. Je veux de la communion avec vous. Enoch est un modèle de l'Église qui va être enlevée. Mais l'Église qui va être enlevée, c'est une Église qui a de la communion de cœur avec son Dieu. Connaissez votre Dieu. Ça se passe dans le secret, dans votre chambre, dans votre vie personnelle. La communion avec Dieu. C'est quelque chose de puissant et de précieux. Vous pouvez lui parler, il vous aime, il vous connaît. Si vous n'avez pas de communion avec Dieu, alors demandez à Dieu de vous aider. Amen. Parce que la communion avec Dieu, elle découle de la foi. Elle découle de l'amour que vous avez pour Dieu. Alléluia. Et l'amour que vous avez pour Dieu, c'est le domaine de la foi. C'est le monde de la foi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que ça vous intéresse? Hein? Les deux piliers du christianisme, qu'est-ce que c'est? Les trois pas de la foi, c'est premièrement, Dieu est créateur, je le crois. Amen. Dieu est celui qui a envoyé Jésus comme sacrifice parfait, je le crois. Et troisièmement, Dieu veut de la communion avec moi. Alléluia. C'est les trois pas de la foi, c'est les bases de la foi. Alléluia. Donc regardons Enoch. Enoch, eh bien, à cause de l'amour qu'il avait pour le Seigneur, il avait vécu un moment et un temps de communion intense avec Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé dans son monde, dans cette dispensation bien avant Abraham, hein? Il avait compris que Dieu cherchait les cœurs des hommes, cherchait notre amour. Vous savez, quand vous êtes chez vous, vous fermez la télé, que vous asseyez dans votre lit ou sur votre canapé, votre fauteuil et... Ah, Seigneur, je t'aime, tu es merveilleux. Je te dis merci. Je passe un temps avec toi parce que tu es mon père et j'ai besoin de toi. J'aime te parler. Quand vous passez un temps comme ça à communiquer avec votre Dieu, je vais vous dire, Dieu est heureux. Ah, ma fille, mon fils, au moins, je peux avoir une communion, je peux parler à son cœur, je peux passer du temps avec lui et avec elle. Et lui et elle passer du temps avec moi. Vous comprenez? Si vous n'avez pas de communion avec votre Dieu, changez, parce que ça fait partie de votre foi. Apprenez à avoir une communion régulière avec le Seigneur. Rappelez-vous de Daniel, 3 fois par jour, il allait devant sa fenêtre qu'il ouvrait devant Jérusalem, et il invoquait le nom du Seigneur, et il priait son Dieu, il adorait, il chantait, il célébrait le Seigneur 3 fois par jour. Alors nous, on est plus libres, hein, suivant notre travail, mais c'est important de développer cette communion avec le Seigneur. Amen. Les personnes qui ont beaucoup de problèmes dans leur vie chrétienne, c'est parce qu'ils ne développent pas ce troisième point. Ils croient que Dieu est le Créateur, ils croient qu'ils sont au bénéfice du sang de Jésus, aucune communion avec Dieu. Ça veut dire que ce cœur, il est sec. Le cœur est sec. Il faut ouvrir ce cœur et laisser la communion avec Dieu venir amener l'huile sainte, l'huile du Saint-Esprit dans la terre de votre cœur, afin que ce cœur soit transformé. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi ? Alléluia. Alors l'événement, si vous voulez, qui s'est passé, c'est que à cause de cet amour et de cette intimité, Enoch a été enlevé. Je crois que c'est une image de l'enlèvement ici. Ceux et celles, malheureusement, beaucoup de chrétiens vont rester, je vous le dis, un jour je vous l'enseignerai avec la parole, beaucoup de chrétiens vont rester sur la terre. C'est pourquoi il y aura un grand réveil après l'enlèvement sur cette terre. Mais c'est pourquoi je vous encourage, et moi je crois que tous les hommes et les femmes que Dieu nous a donnés dans cette église vont partir parce qu'ils écoutent la parole et ils la mettent en pratique. Moi, mon devoir, c'est de vous mettre devant les réalités de la vie chrétienne pour que vous soyez prêts pour le départ, lorsque la trompette de Dieu va sonner, parce que ce temps approche. Ça peut être 6 mois, 1 an, 10 ans, c'est quand même proche. Vous le savez. Les temps, on a étudié Daniel, les temps sont proches. L'Europe est là, les événements sont là, et il manque encore quelques points. Mais donc, vous devez être prêts. Donc, frères et sœurs, vous devez développer cette relation avec Dieu. Vous l'avez lu comme moi, regardez, le verset 7. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Vous savez, l'enlèvement fait partie de la parole de Dieu. Le Nouveau Testament en parle, mais la Bible en parle. Élie a été enlevé auprès de Dieu. C'est pareil, c'est des hommes qui étaient proches du cœur de Dieu. L'Église est proche du cœur de Dieu. Et je crois que vous êtes proche du cœur de Dieu. Alléluia. Développez votre communion avec Dieu. Et pour terminer, le verset 6. Parce que ce verset 6, vous devez l'entourer et l'entourer, parce que ça résume toute chose. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire de plaire à Dieu. Ça veut dire de recevoir quelque chose de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Sans la foi. Frères et sœurs, la foi et l'amour marchent ensemble. Alléluia. L'Église est forte et prête pour l'enlèvement quand dans votre vie personnelle, vous êtes en paix avec tout le monde. Que vous n'avez pas de haine, vous n'avez pas de jalousie, vous n'êtes pas avec l'envie, les choses de ce monde qui créent des perturbations, mais que dans votre vie, c'est cool. Vous êtes en paix. Vous savez, quel bonheur d'être bien avec soi-même. Quel bonheur de n'avoir aucun tourment. Aucune mauvaise chose qui vous harcèle, votre conscience est tranquille, vous aimez, vous êtes aimé, c'est une chance, mais même si vous n'êtes pas aimé, Dieu vous aime. Alléluia. Et Dieu vous aime, Dieu nous aime. Donc je termine avec cela, frères et sœurs. Je résume, j'avais encore beaucoup de choses à dire, mais le temps passe. Je résume vraiment ces trois pas très importants de la foi. Dieu est le Créateur. Le sacrifice parfait de Jésus vous sauve du péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Troisièmement, je dois développer ma communion avec Dieu, parce qu'un jour, eh bien, nous serons tous enlevés avec le Seigneur. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et être agréable à Dieu, c'est recevoir de Dieu tout ce qu'il a pour nous. Et tout ce qu'il a pour nous, c'est dans le domaine de notre foi. Vous voyez ? Ça veut dire Dieu a béni chacun de nous. Il n'y a pas d'enfant préféré. Mais c'est notre foi qui doit grandir. Si notre foi ne marche pas avec l'amour, on ne reçoit pas de Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui peinent à avoir exactement ce qu'ils ont besoin, parce que leur foi ne marche pas, ils sont dans les griefs, dans les disputes, dans les histoires, constamment. La foi ne peut pas marcher. Alors, simplement, abandonner certaines choses. Abandonner. Vous savez, il y a des choses, des sujets, il faut les laisser dans les mains de Dieu. Des personnes, il faut les laisser dans les mains de Dieu. Et nous, il faut rester dans la paix. Amen. C'est très important. Parce que Dieu revient bientôt, le Seigneur approche. Enoch nous rappelle qu'à un moment donné, il a été enlevé avec Dieu. Et c'est tout au début de votre Bible. Ça veut dire c'est un événement qui est dans le plan de Dieu, que Dieu appelle, que Dieu annonce dès la Genèse. Il va l'annoncer avec Élie, il va l'annoncer avec Jésus qui va partir sous les yeux de ses disciples. C'est un événement, comme Bernard nous a dit tout à l'heure, qu'il faut prendre en compte, qui va arriver à un moment donné. Parce que nous sommes proches de ce moment. Amen. Seigneur, nous prions ensemble, mes frères et sœurs et moi-même, pour te remercier de ce que tu établis dans nos vies, ces deux jambes du christianisme qui sont la foi et l'amour. La foi parce que je t'aime, Seigneur. Alléluia. Selon Matthieu 22, comme nous avons lu. Hein? Alléluia. J'aime mon Dieu de tout mon cœur, toute mon âme. Ça, c'est la foi. Et j'aime mon prochain comme moi-même, Seigneur. Ce sont deux commandements qui sont identiques, Seigneur. Et je prie que ces deux commandements soient dans la vie de chacun de nous, que nous veillions à nous-mêmes, que nous pardonnions, que nous ne laissions aucune racine d'amertume nous infecter et nous attirer vers les choses mauvaises, vers la colère, vers la jalousie, vers les mauvaises choses. Nous protégions notre âme, nous protégions notre cœur, afin que l'amour de Dieu grandisse en nous et que nous faisions de grands progrès. Je prie pour tes enfants également, pour qu'ils comprennent que la base de la foi, c'est ces trois pas. Alléluia, qui sont très importants. Premièrement, je crois que Dieu est le Créateur de toutes choses. Deuxièmement, je crois dans le sacrifice de Christ, qu'il m'a donné la vie éternelle. Et troisièmement, je crois que Dieu m'attend dans une communion intense et intime avec lui chaque jour. Et je la développe au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.